Mais pour l'instant, allons prendre des nouvelles mises à jour sur ce qui se passe présentement dans la Ligue nationale de hockey. Martin McGuire est avec nous. Salut Martin.
Bonsoir Jérémy.
Martin, écoute, on s'était donné comme objectif de faire un Kiki's Watch. C'est de regarder Jesperi Kotkaniemi lorsqu'il quittera la Finlande pour revenir ici. On pourrait peut-être penser que ça va se régler. Raconte-nous un peu, Kiki s'en revient là.
Oui, ben écoute, après avoir quand même connu certains bons moments, là, notamment deux buts dans les dernières rencontres, là, il commence à planifier son retour. D'abord, il faut dire que un peu partout dans la Ligue nationale, on a vu des vidéos de Austin Matthews et Connor McDavid patiner ensemble sur la même glace, en train de se préparer. La plupart des joueurs ont mis la machine en marche. Jérémy, ils patinent au moment où on se parle. Et quand on s'est parlé la semaine dernière de l'éventualité d'un règlement dans la prochaine semaine, c'est-à-dire dans la semaine qu'on commence là, aujourd'hui en ce lundi soir, là, bien évidemment, là, pour les joueurs qui sont en Europe, il faut commencer tranquillement à faire les bagages puis à s'en venir en Amérique, parce que si on a une entente là, d'ici la fin de la semaine, c'est clair que au 1er décembre, dis-je bien, là, tout au plus, là, il faudra que les joueurs européens qui jouent dans les clubs canadiens soient rentrés au pays, parce qu'ils devront s'isoler pendant 14 jours pour s'assurer qu'ils n'ont pas la COVID, bien sûr, avant d'entreprendre un camp d'entraînement qui pourrait être fixé là, le 15 ou le 16 décembre, si bien sûr il y a entente.
Bon, justement, parlons-en de ça, parce que il n'y a pas eu beaucoup de négociations pendant le week-end, mais je vois encore un message qui nous provient de Boston, qui nous dit qu'il y a de plus en plus de propriétaires qui seraient OK pour ne pas avoir de saison en 2020-2021. On met beaucoup de pression présentement sur l'association des joueurs, là.
Écoute, au moment où on se parle, c'est sûr que les négociations se passent moins bien que ça s'est passé lors des négociations estivales, en fait à la fin du printemps, qui ont conduit au retour au jeu. Tu te souviens qu'à ce moment-là, on s'était dit à plusieurs reprises là, que le climat était bon, le climat était constructif. Mm-hmm. On a formé un comité avec des joueurs d'un côté, des propriétaires de l'autre, puis des agents qui étaient en coulisses un peu, qui faisaient le lien entre les deux camps, là, et tout le monde avait travaillé sur le processus de retour au jeu. Là, c'est plus compliqué, Jérémy, parce que les propriétaires veulent que les joueurs fassent des sacrifices financiers. Ils veulent, bien sûr, aller toucher à la convention collective qui a été négociée. Alors, c'est pour ça que ça rend le climat un petit peu plus difficile. Et en plus, Jérémy, il y a des propriétaires de la Ligue nationale qui tirent le diable par la queue actuellement, comme le dit l'expression bien de chez nous. Ils ont des problèmes financiers et on le sait, là, c'est pas nouveau. Il y a un petit groupe de propriétaires qui aimeraient bien mettre la clé dans la porte et recommencer seulement en octobre prochain. Mais ça, Jérémy, là, c'est la pire décision que pourraient prendre les propriétaires de la Ligue nationale. Gary Bettman, Bill Daly et un très bon groupe de propriétaires sont convaincus du contraire. La Ligue nationale n'a pas l'intention de disparaître jusqu'en octobre 2021. Les joueurs non plus, Jérémy, n'ont pas l'intention de s'en retourner à la maison. Ils veulent jouer, ils patinent, ils s'entraînent, ils laissent le soin à leur exécutif de faire un bras de fer avec les propriétaires. Parce qu'en bout de ligne, il n'y a personne qui veut laisser sa chemise là-dedans. On est prêt à perdre des plumes, mais on ne veut pas être déplumé au complet. Alors, c'est pour ça qu'il y a un petit bras de fer actuellement. Mais à un moment donné, ces gens-là vont se rejoindre, Jérémy, parce que les propriétaires ont besoin des joueurs et les joueurs ont besoin de jouer. Donc, par définition, ils ont besoin des propriétaires. Puis, je sais qu'il a circulé dans les médias là, au cours des dernières heures, un texte qui faisait état d'une clause dans la convention. C'est une clause d'exception, là. En fait, là, à peu près tous les contrats sur la planète Terre sont assortis de ces clauses-là. C'est-à-dire que s'il y a une guerre, s'il y a un conflit, s'il y a un tremblement de terre, s'il y a quelque chose d'extraordinaire qui arrive, on peut tout simplement tirer la plug. Puis au moment où on tire la plug, on dit aux joueurs, vous avez joué tant de matchs, on vous paie pour tant de matchs et nous, on ne peut plus continuer pour des raisons X, Y. Mais ça prend vraiment des circonstances extraordinaires et je trouvais intéressant que ce soit souligné, mais dans ce cas-ci, je ne suis pas un juriste, là, mais pour moi, c'est clair, là, comme les joueurs ont accepté de jouer et que les propriétaires ont accepté que les joueurs jouent pendant la pandémie et pendant les restrictions que les santé publique, autant américaine que canadienne, imposaient pendant cette pandémie et qu'il y a eu quand même des matchs, la Ligue nationale ne pourrait pas invoquer des circonstances extraordinaires dans ce cas-ci, Jérémy, parce que ils ont joué pendant la pandémie.
Ouais, exactement. Et on fait référence là, à un texte de Ken Campbell de Hockey News qui parle que le plus grand problème présentement est une clause dans la convention collective qui a été signée au mois de juin. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on revient dans la convention collective, on utilise une clause et on dit, écoutez, il y a quelque chose qui se passe qui est hors de notre contrôle. Donc, à partir de là, il faut que l'association des joueurs réponde à nos demandes. Sinon, nous avons la possibilité de ne pas tenir la prochaine saison. C'est ça qu'on entend, c'est ce qui sort présentement.
Ouais.
Sous différents, tu sais, on demande différentes choses. Entre autres, là, c'était 25 % de l'escrow, donc qui est le montant mis en fiducie.
De la fiducie.
Là, et 26 % de salaire reporté. En plus, peut-être d'avoir un salaire au prorata du nombre de matchs joués. Et on dit, si l'association des joueurs ne veut pas ça, eh bien, il y a une clause qui dit, bon, mais écoutez, si on n'arrive pas à avoir nos demandes, on pourrait ne pas tenir de saison 2020-2021. Maintenant, il faut regarder, parce que dans ce texte-là, et moi aussi, je ferai acte d'humilité. Là. Je ne suis pas un juriste, je n'ai pas négocié des conventions collectives, donc je ne veux pas m'embarquer dans quoi que ce soit. Mais ce qu'on dit, c'est qu'au Canada ou aux États-Unis, la loi est faite de façon différente. Au Canada, si tu arrives, tu as une convention collective et tu décides de ne pas travailler, ben ça, tu appelles ça un lock-out.
Un lock-out.
Ça s'appelle un lock-out et tu ne peux pas faire ça parce que tu as une convention collective signée. À partir de là, qu'est-ce qui va se passer là-dedans? C'est là que ça devient extrêmement complexe. Là.
Et de toute façon, ça pourrait pas non plus être évoqué aux États-Unis. Il y a une convention, Jérémy. Elle est signée, la convention. Mais tout ça pour dire là, que les deux parties n'ont même pas intérêt de se rendre là. Tu sais, là, ça, c'est des choses que tu évoques là, quand tu es rendu, que tu n'en as plus d'arguments, puis que tu n'es plus capable, puis que tu es rendu au bout de la corde. Là, tu tires sur cette corde-là, là, puis le plancher ouvre en dessous des pieds de tout le monde. Puis les propriétaires, les joueurs, tout le monde s'en va dans le trou. Tu veux pas une affaire de même. Les gens qui évoqueraient une chose comme ça ne sont pas des gens qui auraient du jugement. Je vais le dire. C'est-tu assez poli pour toi?
C'est poli, ça a de l'allure.
Voilà.
Mais sais-tu quoi? Je pense que lorsqu'on entend ça dans ce texte de Ken Campbell de Hockey News, lorsque je te relate les informations qui se promènent sur Twitter, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a vraiment des franchises qui sont présentement en difficulté et qui seront en difficulté au courant de la prochaine année. Là.
Ben écoute, Jérémy, s'ils ne jouent pas, là, si à l'hiver 2021, il n'y a pas de hockey, là, attends-toi qu'il y ait plusieurs franchises qui vont être en difficulté. Parce que quand tu vas vouloir relancer les hostilités en octobre 2021, là, dis-moi donc dans certains marchés où c'est déjà assez précaire, dis-moi donc, toi, comment on va réussir à vendre des publicités sur les bandes, comment on va réussir à vendre des loges, comment on va réussir à vendre des droits de télévision locaux, parce qu'il y a les droits nationaux dont on parle beaucoup, là, mais il y a les droits locaux qui sont importants. Tu sais, les Ducks d'Anaheim, là, ils ont un revenu important au niveau de la télévision locale, même affaire pour les Flyers de Philadelphie, même affaire pour les Canucks de Vancouver. Alors, tu sais, si tu commences à jouer avec ça, là, pis si tu t'en vas te faire oublier pendant une couple de mois, c'est extrêmement dangereux parce que dans ce cycle-là, tu vas avoir eu du basketball, du football, du baseball, puis tu vas avoir quasiment eu le début d'une autre saison de football avant de reprendre des activités de hockey. Ça n'a aucun sens, Jérémy.
Okay.
Si on en arrivait là, si on en arrivait là, je pense que M. Bettman et M. Donald Fair sont aussi bien démissionnés tout de suite après ça, parce que autant les propriétaires d'un côté que les joueurs de l'autre vont être justifiés des mettre dehors tous les deux.
D'une façon ou d'une autre, c'est pas ce que tu veux léguer, que ce soit du côté de Gary Bettman ou du côté de Donald Fear de l'Association des joueurs, Martin.
Et là, on parle pas des pénalités non plus, là. Puis là, je veux pas qu'on perde les gens là-dedans parce que ça devient lourd et fastidieux, là, mais on parle pas non plus des pénalités avec les télédiffuseurs.
Ah, ben non.
On n'a même pas parlé de ça. Alors, tu joues pas. Puis non seulement tu joues pas, mais tu vas être obligé de faire des chèques quand même.
Mais Martin, c'est ce que j'ai déploré en ondes, c'est la semaine passée. J'ai dit, tu sais, c'est dommage parce que je regarde la Ligue nationale de hockey, je regarde la NBA. Je le sais que tu m'as dit que la NBA avait beaucoup plus de ressources financières, je suis d'accord. Mais tu sais, les négociations sont faites à l'interne. On a voté, on a joué, on se présentera au début décembre, puis ça s'arrête là. La Ligue nationale, c'est on laisse filer de l'information, on fait de la négociation sur la place publique. Les agents parlent, les joueurs parlent, les dirigeants parlent, tout le monde parle. Et là, ça fait que tout le monde connaît quand ça va pas bien à l'interne, puis je pense pas que c'est une bonne image pour la Ligue. Selon moi, là, gardez vos bébelles à l'interne puis essayez de régler ça entre vous autres. Là.
Mais as-tu remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de guillemets ouverts, Donald Fair ou Gary Bettman?
Non, il n'y en a pas beaucoup, non.
Il n'y en a pas beaucoup, hein?
Non.
Tu sais, parce que, bon, il y a des gens comme toi et moi qui en parlent, pour qui on est payé d'en parler. Il y a M. Campbell qui en parle, il y a M. Lebrun qui en parle, il y a M. Drager qui en parle, il y a M. Friedman qui en parle. En fait, là, il y a beaucoup de monde qui en parle, mais les gens qui sont directement impliqués dans les négos, là, qui sont à la table et qui ont les, comme on dit, qui ont les cartes dans leurs mains, là, eux, on les entend pas parler beaucoup. Puis c'est clair que le climat est pas aussi bon qu'au printemps. Mais ultimement, Jérémy, je suis le genre de gars qui aime voir le verre à moitié plein, là, moi, là, dans la vie en général, là. Puis j'aime croire que ces gens-là vont voir le verre à moitié plein, puis qu'ils vont s'asseoir et qu'ils vont trouver une entente. Parce que c'est pas bien, bien compliqué, là. La dernière fois que j'ai vérifié, là, le nerf de la guerre, il est où, là? Les joueurs aiment pas le mot escrow. Ils aiment pas le mot fiducie. Ils ne veulent pas augmenter la portion d'argent qu'ils mettent là-dedans parce qu'ils ont peur de la perdre. L'autre côté, c'est salaire différé. Salaire différé, les joueurs sont un peu plus ouverts au salaire différé, mais ce qu'ils veulent, c'est des garanties, Jérémy. Parce que ce qu'ils vont mettre là-dedans, là, ils veulent être sûrs de le ravoir quand les choses vont se mettre à mieux aller dans la Ligue nationale. Alors, tu sais, le nœud, là, il est là. Parce que pour jouer 48, 50, 60 matchs, ça, là, ils s'entendent là-dessus. Il n'y a pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème.
Bon, Martin, avant que je te pose la question que je poserai aux auditeurs ce soir, j'ai un auditeur sur la messagerie texte qui me demande de sortir. Faut que tu sortes ta boule de cristal, Martin. Il demande à Martin, s'il vous plaît, le pourcentage de chances du retour du hockey. Fait que donc, attention, Martin, sort sa boule de cristal, regarde dedans. Et la réponse est?
Je pense qu'on a un 85% fort.
Wow, quand même, on est optimiste. J'aime ça. Non, j'aime comment
non,
tu penses.
Jérémy, vraiment, là, vraiment, tu sais, des fois, on tend à vouloir observer que ça va pas bien. Mais moi, je pense que d'ici la fin de cette semaine-ci, là, on va avoir des choses très concrètes sur la table.
On le souhaite, honnêtement, on le souhaite. Martin, je poserai aux auditeurs ce soir, en référence avec ce top 10 de la Ligue nationale de hockey, où Andriy Vasilievski est bon premier gardien. Là, on dit les gardiens actuels.
Je suis en train de regarder ça, là, puis ouf, je peux te dire que je suis pas d'accord avec tous les noms qui sont là.
Il y a des noms, hein? Et là, je pose ce soir la question, Price, top 6, vous voyez ça comment? Mais surtout, s'il y avait un matchette, tu sais, dans les gardiens que tu as là, je les nomme, Vasilievski 1, Tukarask, ouais. 2, Ellie Buck 3, Bishop 4, Jordan Bennington des Blues de Saint-Louis 5, Price 6, Kemper de l'Arizona 7, Robin Leonard de Vegas 8, et Jacob Markstrom des Flames de Calgary 9, et Anton Khudobin des Stars de Dallas 10e. Toi, là, Price, c'est-tu un bon classement 6?
Ah, écoute, moi je pense qu'il devrait être un peu plus haut que ça. Il devrait être un peu plus haut que ça. Quand vous faites un exercice comme ça, là, c'est pas bien compliqué. Mettez les noms sur la table, puis dites-vous que celui-là est disponible, celui-là est disponible, celui-là est disponible. Qui est celui pour lequel les équipes vont tout faire pour mettre la main? Est-ce que c'est Khudobin? Khudobin, là, sa place est correcte là, actuellement. Là, je pense qu'il est dans le top 10 actuellement. Mais faites-moi pas croire que Ben Bishop est en avant de Carey Price. Là.
Écoute, pendant la...
Ben Bishop avait de la misère à arrêter un ballon de plage cet hiver, là.
2,50 moyenne de buts alloués, 920 pourcentage d'efficacité avec les Stars cette saison. 219 pour Price, puis 909. C'est-tu quoi? Danny a parlé avec Mario Landlois un peu plus tôt, puis je pense qu'il a lâché la meilleure ligne. Il dit, de tous ces gardiens-là, Carey Price est celui qui a été repêché le plus haut, celui qu'on avait le plus d'attentes, ouais. Et c'est celui qui a eu le moins bon club de hockey devant lui.
Oui, puis ça s'explique très bien, cette affaire-là. Tu sais, puis honnêtement, Darcy Kemper, je pense que Kemper a émergé un peu avec les Coyotes de l'Arizona, mais Kemper est devenu un bon numéro 1 avec un excellent numéro 2 à côté de lui. Tu sais, moi, j'aurais pas vu Kemper dans une situation avec une équipe moyenne essayer de remorquer cette équipe-là. Je pense pas que Kemper aurait pu réussir une chose comme ça. Dans le cas de Tuukka Rask, moi, je discute pas trop, là. Tu sais, à part le fait qu'il est sorti de la bulle et tout ça, là, si on enlève cet événement-là, C'est vrai que Tuukka Rask est un très bon gardien de but. Et honnêtement, au moment où on se parle, je pense que Vasilevski est le numéro un dans la ligue.
Ah, clairement. Moi, je vais avec ça. Vasilevski, Rask, puis je peux y aller avec Hellebuyck. Il est très bon, Hellebuyck. Puis j'aurais mis Price 4 au lieu de Bishop et Binnington. Ça, c'est mon opinion.
Mais tu sais, en même temps, là, il va y avoir des Jeux olympiques là, bientôt là, pour une équipe canadienne. Là. Vous voulez gagner une médaille d'or. Là. Tu devrais poser cette question-là à tes auditeurs.
Ah, j'ai dit un match-up, mais on peut parler de médaille d'or.
Non, mais tu veux monter un club puis tu veux gagner une médaille d'or pour le Canada. Est-ce que c'est Connor Hellebuyck, ton partant, ou c'est Carey Price?
Tu sais qu'Hellebuyck vient de gagner le trophée Vezina.
Je te repose encore la question. Tu veux gagner une médaille d'or olympique, Jérémy Rainville. Est-ce que c'est Connor Hellebuyck ou Carey Price? Lâche-moi le Vezina, je t'ai pas parlé du Vezina.
Moi, je prends Carey Price, mais Carey Price devant le filet. Honnêtement, dans un match-up...
Je fais le même choix que toi. Là.
OK, je prends Carey Price. OK, parfait. Ben, on va pas s'obstiner ben longtemps, Martin. C'est toujours un plaisir. Et puis, on continue à surveiller ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Merci beaucoup, Martin.
Et je veux juste te dire, en terminant, les Bruins de Boston ont réglé un gros dossier. Jake DeBrusk est signé pour 2 ans, un contrat passerelle de 3,6 millions. Lui, c'est un agent libre avec restriction, Jérémy. Mm-hmm. Puis c'est un des gros dossiers que les Bruins avaient à régler dans la saison morte.
Et voilà, nous voilà informés. Merci beaucoup, Martin McGuire.